J'ai réfléchi totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une diplomatie au plein cordage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs qui se penchent ce jeudi 13 janvier 2011 sur la poursuite d'expulsion des Congolais vivant en Angola. D'après un rapport des Nations Unies datant du 29 décembre dernier, ces expulsions ont augmenté depuis le 11 décembre avec l'arrivée en une semaine de 1355 personnes dans les provinces du Kasai Occidental et du Bas-Congo. Beaucoup ont subi des traitements dégradants au cours de la procédure d'expulsion, y compris des violences sexuelles. Valérie Amos, secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence, a exhorté les autorités des deux pays pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les droits de l'homme et la dignité humaine des personnes expulsées soient respectés. Avec ces nouvelles vagues d'expulsion, le nombre de personnes expulsées depuis septembre 2010 dépasse maintenant 12 000. Nous avions évoqué avec vous ce sujet le 11 novembre 2010 et ce jeudi, nous avons une seule question pour l'échange et les débats. Quelles solutions concrètes proposez-vous pour faire face à cette situation? Vous avez l'opportunité pour vous exprimer. Nous avons aussi au téléphone dans cette émission M. Arsène Mouaka, analyste politique et coordinateur du Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Kikim Poutou, Marie-Chantal Lumba et Willem Lungamba sont à la réalisation de cette émission coordonnée par Ben Kabamba Piro et la Mégie. Vous la présente, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour répondre en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-67-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour à tous. La poursuite des expulsions des Congolais vivant en Angola s'est poursuivie, s'il faudrait le dire ainsi, jusqu'à la fin de l'année dernière. Et Parole aux auditeurs vous permet de dégager les pistes et les solutions durables pour faire face à cette situation. En septembre et octobre, les acteurs humanitaires ont signalé l'arrivée de 8296 personnes dans les zones de Luisa et Chigapa, c'est dans la province du Kasai Occidental, et des 511 personnes dans la zone des Tembo, province de Bandundu, et de quelques 2000 personnes dans la province du Bas-Congo. La plupart sont des ressortissants, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous appeler au 081-899-669 pour donner votre témoignage et surtout nous dégager les pistes et des solutions pour faire face à cette situation et aussi nous envoyer un message électronique à l'adresse pa@radiocopie.net. Monsieur Arsène Mouaka, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur, comme je le disais tantôt, du Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Cette situation d'expulsion des Congolais qui vivent en Angola, c'est depuis 2004 qu'on en parle. Et on a dit qu'il y a plus ou moins 400 000 Congolais vivant en Angola et la plupart de ceux qui sont expulsés, on dit bien sûr que ce sont des gens qui se sont rendus dans ces pays d'une manière irrégulière. Mais des fois, les ONG, les expulsés même dénoncent les conditions dans lesquels ils sont expulsés et vous coordonnez le centre d'études politiques et d'emblée, quand on regarde cette situation comme cela perdure, quel est votre point de vue en tant qu'analyste et surtout dans le centre d'études politiques où on peut dégager le piste de solutions pour aider les gouvernants à régler cette situation, quelle peut être votre réaction?
Oui, je crois que cette situation ne fait qu'interpeller le gouvernement et dévoiler davantage sa faiblesse, d'autant plus que un État a la responsabilité de protéger ses citoyens à l'intérieur de ses frontières et à l'extérieur. Les citoyens congolais qui sont à l'extérieur doivent jouir d'une protection diplomatique à telle enseigne qu'on ne peut pas enregistrer des choses pareilles. Je crois que notre gouvernement est davantage interpellé, notre diplomatie est tout autant interpellée, surtout aussi le gouvernement angolais. Je crois que les relations sont encore bonnes entre le Congo et l'Angola. Et ces relations sont historiques depuis le 15e siècle. Il y a eu des mouvements de population entre les deux États. Et ces mouvements se font dans les deux sens. dans des conditions qui étaient celles des États, notamment un Angola resté longtemps déstabilisé, mais aussi le Congo avec un appareil administratif et politique incapable de contrôler les mouvements de population. Et donc c'est dans ce désordre que les deux pays se sont échangés les populations, de telle sorte qu'il serait quand même intolérable que l'on puisse assister à ce spectacle au moment où on parle de l'Union africaine.
Mais quand on regarde les expulsions se font, se déroulent partout aussi, au monde, même en Europe, il y a les Congolais qui sont expulsés, les Africains qui sont expulsés, les personnes qui sont expulsées, ce sont les personnes qui vivent en situation irrégulière selon le service d'immigration angolais, ce sont des personnes qui n'ont pas de visas, de séjour dans ces pays, qui sont allés soit pour l'exploitation minière, soit pour les commerces ou toute autre activité. Alors, quelle peut être l'attitude d'un gouvernement alors pendant que les gens qui sont expulsés vivent sur le sol étranger d'une manière irrégulière, alors que ce pays est souverain pour réglementer les séjours sur son territoire?
Oui, je crois que la première chose qu'il faut exiger à notre gouvernement, c'est de demander au gouvernement angolais de respecter ne serait-ce que le droit international. Je crois qu'un exilé, réfugié, a une condition juridique qui le protège et qui l'entoure à telle atteinte qu'il ne peut pas être sujet à des traitements dégradants. Il est vraiment inacceptable et surtout inacceptable que notre gouvernement ne place pas un mot. On ne voit pas un ministre congolais, peut-être des droits humains, peut-être des affaires étrangères, ou peut-être même de l'intérieur, bouger vers l'Angola, ou alors un chef d'État bouger vers l'Angola, pour demander qu'on lui donne peut-être la liste des citoyens congolais qui sont à situation irrégulière et que l'État congolais cherche les voies et moyens pour les ramener à toute sécurité et à toute dignité vers l'État congolais. Et donc c'est quand même inacceptable, surtout que ça perdure depuis 2004. On a assisté à des voix discordantes à l'époque, bien plus 4, à des voix discordantes au sein du gouvernement, où une ministre à l'époque des Affaires sociales offrait le ton, et de l'autre côté, il y avait une situation à parler, une situation à implorer. Je crois que c'est quand même une situation plus inacceptable.
Mmh. On regarde en ligne, il y a Maurice Kabeya, président de la société civile de Kamako. Kamako, c'est une localité à la frontière entre la RDC et l'Angola. C'est par l'un des points de sortie, bien sûr, de ces expulsés qui viennent de l'Angola, à qui on va remettre la parole pour nous décrire un peu l'ambiance et surtout comment ça se passe à Kamako. Il va avoir la parole, mais pour tous ceux-là qui voudraient aussi placer un mot et surtout dégager le plus des solutions concrètes aujourd'hui pour aider les uns et les autres à mettre fin à cette situation, appelez-nous au 081-890-69-69.
Parole aux auditeurs.
Maurice Kabeya, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes le président de la société civile de Kamako. Kamako se trouve au Kasaï occidental, bien sûr, dans les territoires de Tshikapa. Et Kamako est à la frontière, n'est-ce pas, entre la RDC et l'Angola. C'est par où d'ailleurs, hein, les expulsés qui viennent de l'Angola et sortent par Kamako. Et vous qui vivez avec ces expulsés, quels sont les motifs pour lesquels sont-ils expulsés? Que vous disent-ils quand vous les accueillez sur place à Kamako?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Kamako est juste à 14 km de la ville de Bundu, qui est le chef-lieu de la province de Bundu Nord, qui fait frontière avec la RDC, de notre côté. La problématique du refoulement des Congolais qui vivent en Angola est liée à diverses raisons. De toutes les façons, la société civile, lorsque nous avons adressé notre mémorandum au gouvernement de province à Tshikapa, nous avons d'abord évoqué ce que mon prédécesseur vient de dire, l'échange, les transactions entre les deux peuples. Vous remarquerez que sur toute la frontière Angola-RDC, nous sommes là, les mêmes tribus, sont les mêmes tribus, ce sont les mêmes ethnies, et juste même au niveau des clans qui sont des part et d'autres. Nous ne condamnons pas fermement surtout l'expulsion des Congolais de l'Angola, mais les conditions humaines dans lesquelles ils sont expulsés Il faut que nous décrions les sons d'enfants. Et nous ne comprenons pas, nous ne savons pas expliquer ce phénomène d'enfant parce que les enrôlés, à un certain moment, ils ne sont obligés de faire avec nous. Parce que nous voyons des officiers angolais, des fonctionnaires angolais, qui viennent ici parfois de manière clandestine chercher des groupes de jeunes gens pour les utiliser dans les mines de diamants, dans l'agriculture et qu'on sort, même dans le petit commerce. Et cela excite aussi les autres Congolais à aller parce qu'ils sont appelés à faire, à relever les défis de la vie. Et ils le font. La RDC sur la planète Terre, et dans tous les pays, il y a toujours des immigrés et des immigrants. Mais ce que nous déplorons, c'est la manière que les Congolais qui sont sur l'Angola sont maltraités. Il y a des viols, nous recevons ici des cas de femmes violées. Nous recevons parfois des enfants non accompagnés. Et parce que nous avons plusieurs portes de sortie, vous retrouverez à un certain moment. Et les parents sont expulsés par Kangaji, les enfants sont expulsés par Samako, ou c'est l'homme qui est expulsé à Tsenye, et la femme est expulsée à Kangaji, où il y a une distance presque de plus de 100 km. Et les militaires angolais, les policiers angolais, ils vont une gâchette facile lorsqu'ils vont poursuivre la population congolaise.
Voilà, Maurice Kabeya. Voilà, Maurice Kabeya, ça c'est en ce qui concerne les conditions, mais révélons maintenant, vous êtes de la société civile, quand vous recevez les expulsés, leurs besoins, tant qu'ils sont déjà au Congo, quel est leur besoin, et c'est que vous, au niveau de la société civile, vous pensez qu'ils puissent être faits pour éviter, d'ailleurs, vous avez dit, ils ont une histoire commune, mais enfin, comme ça continue, mais quelles sont les pistes qu'il faudrait dégager en fonction des besoins des expulsés qui arrivent pour éviter que les gens ne rentrent en Angola, que ça soit continuel, ils sortent aujourd'hui, trois mois après ils rentrent, demain ils sont expulsés, après demain ils rentrent. Au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les encadrer, eu égard bien sûr à leurs besoins, M. Maurice Kabeya?
Oui, merci beaucoup. Mais nous, au niveau de la société civile, lorsque nous partageons avec les amis qui sont obligés de retourner en Angola, bien que maltraités, nous avons proposé deux types de solutions. Parce que la première raison, c'est que les Congolais peuvent mieux faire le commerce en Angola, ils peuvent mieux traiter les diamants en Angola qu'ici. Alors, nous avons trouvé que si seulement le gouvernement congolais prenait à cœur ce problème pour accélérer les négociations avec le gouvernement angolais et officialiser cette frontière, l'ouvrir officiellement, de manière qu'il y ait des échanges commerciaux entre les deux peuples, ça va diminuer sensiblement cette clandestinité et cette crise que nous décrivons. Il y a de l'autre côté les traiteurs, les importants artisanaux du diamant qui disent que tous les périmètres où ils travaillaient ici pour gagner le pain, sont maintenant vendus comme des périmètres qui sont achetés par des vieux, ce qu'on appelle les carrés. Et ces gens, des carrés qui ont acheté des périmètres, ils sont en train de laisser les traiteurs parce qu'ils n'ont pas créé leur emploi et ils ne font pas de construction. Et ils attendent que les pauvres traiteurs se développent de leur manière. Et si c'est tout vrai, j'en sais qu'il est, il vient de s'emparer, il est là, il est ravi, il est ravi de gagner, c'est une déprime, là. Ils sont en train de demander, et si jamais le gouvernement peut trouver une certaine solution à ce sujet, et ils seront plus forcés d'aller à l'envoi.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Maurice Kabeya. D'ailleurs, depuis du temps du gouvernement de la transition, le gouvernement de la RDC avait déjà annoncé qu'il devait disponibiliser les espaces pour l'exploitation artisanale de minerais ici en RDC, enfin d'occuper les trésors qui ont tendance à aller en Angola pour trésors. Mais vous dégagez depuis des solutions. D'abord, l'ouverture officielle de frontières entre la RDC et l'Angola du côté de Kamako, que ce soit à Tshisekedi, Kandaji, toutes ces localités, pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, et ça va éviter que les gens s'y rendent clandestinement, et aussi disponibiliser les espaces pour les traiteurs artisanaux. Merci beaucoup Maurice Kabeya, je rappelle que vous êtes président de la société civile, et nous avons eu de Kamako, c'est dans la province du Kassai occidental, vous avez dit, vous êtes à la frontière entre la RDC et l'Angola, à 14 kilomètres de Lunda Nord, je crois bien, c'est une province qui est juste à côté là, du Kamako en Angola. Merci merci beaucoup Maurice Kabeya. Nous avons à Lubumbashi Didier qui nous appelle. Bonjour Didier.
Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez suivi le point de vue de Maurice Kabeya. Nous avions lors de l'émission du 11 novembre, bien sûr, beaucoup de gens sont venus dans l'émission pour condamner les conditions dans lesquelles les expulsions s'est déroulées, mais aujourd'hui, pour dégager les pistes et les solutions, qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse être fait pour encadrer les Congolais, que ce soit ceux qui sortent, ceux qui ont envie de partir, ceux qui sont en Angola, et éviter toutes ces expulsions, toutes ces conditions difficiles? Qu'est-ce que vous proposez à Didier?
Merci beaucoup. D'abord, je suis vraiment, ça me fait trop mal au cœur, monsieur le journaliste, hein. Ça me fait trop mal au cœur. C'est très affreux pour nous. Et c'est trop ridicule pour nous, Congolais, aujourd'hui. On est négligé dans notre propre État. Ailleurs, on est tellement négligé. Vraiment, ça me fait trop mal. Mais je vais donner quand même certaines pistes de solutions pour trouver une solution par rapport à ça. Mm-hmm. Parce que je vous assure que on a, car dit-on, il ne suffit pas de changer les noms de montagnes pour qu'à la place des épines poussent les roses et les champignons. Hein? Il faut également faire un effort pour remédier à cette situation déplorable. Moi, je pense que tous les Congolais qui sont à chaque fois expulsés en Angola, ils reviennent au pays, comme vous l'avez dit tantôt. Après 2 ou 3 mois, ils rentrent encore en Angola. Ça me fait trop de la peine. Quand ils reviennent ici, il n'y a pas le moins de substance, monsieur le journaliste. Il n'y a pas le moins de substance. Il préfère mieux de rentrer encore en Angola. Quand il rentre là, dans des moyens irréguliers, il y sera encore expulsé. On est négligé ici. Moi, ce qui me fait trop de la peine, c'est voir notre propre État. Pourquoi notre État n'est pas en mesure de sauvegarder la dignité de toutes ces personnes-là? Pourquoi notre État nous prouve combien de fois il est moins sérieux? Parce que je veux vous donner un exemple, monsieur le journaliste. J'ai vu la fois dernière, c'était en France, en 2009, il y avait... on a pris en otage un ressortissant français, c'était chez Oniger, c'était monsieur de Germanon. Mais vous aviez vu comment Nicolas Sarkozy a réagi par rapport à ça. Vous aviez vu, vous êtes moins jusqu'à son exécution. Vous avez vu comment le président français a réagi. C'est pour vous dire que même un seul ressortissant, même un seul citoyen, c'est quelqu'un qu'on les doit trop de respect. Ici chez nous, même pour voir nos autorités réagir, il faudrait la mort de tout un ribambeau de personnes. Il faudrait la mort de 400, 700 personnes. C'est là que vous verrez maintenant l'État, notre État réagissant.
Voilà. Didier, en bref, au-delà de toutes les inquiétudes que tous les auditeurs ont, même ceux qui nous ont écrit par rapport aux conditions, mais vous avez évoqué l'amélioration de conditions de vie des Congolais. C'est ce qui peut freiner ces mouvements, parce que ceux qui partent de la RDC vers l'Angola, ils pensent qu'ils vont là-bas pour aller travailler, pour aller chercher les moyens de survie. Et vous proposez d'abord, l'amélioration des conditions de vie des gens pour empêcher qu'ils puissent émigrer clandestinement. Et aussi, vous avez souhaité le renforcement de la diplomatie pour penser à protéger toutes ces personnes qui se trouvent en Angola. En bref, c'est ça de dire.
En conclusion, monsieur le journaliste, je dirais aussi, parce que seulement que notre État nous a dit, c'est pourquoi que ces gens-là, moi je voudrais que notre État prenne les choses au sérieux, prenne les choses à main, afin que ces immigrés ne puissent pas encore être méprisés de cette façon-là.
Merci. Merci Didier, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Nous allons lire le message de Hubert qui nous appelle de Bukavu, et pendant ce temps, Noëlla garde la ligne parce qu'il y a aussi notre invité qui pourra intervenir pour commenter ses premières interventions. Hubert de Bukavu qui nous a écrit par l'adresse pa@radiocafi.net et dit ceci: je dénonce surtout les actes inhumains que subissent nos compatriotes vivant avec ou sans papier. J'estime que ces violations des droits de l'homme ont pour cause la négligence de notre ministère des Affaires étrangères, car il est inconcevable que pendant tout ce temps, il n'y ait pas un plan quelconque du gouvernement en collaboration avec le Parlement pour éviter ces violations et pouvoir rapatrier correctement les Congolais. Et il y a aussi M. Rukanda Rwakisuki qui nous écrit des Burundi, lui dit ceci: les expulsions des Congolais de l'Angola montrent bien que les soi-disant frères africains n'aiment pas les Congolais pour lui. Il dit que la citation du président sénégalais est vraie, un immigré africain se sent plus mieux en Europe qu'en Côte d'Ivoire. Les conditions de vie du Congo font que nous ridiculisions, nous soyons ridiculisés. C'est cela veut dire dans son mail qu'il voudrait s'inquiéter du fait que quand un Africain se retrouve immigré dans un autre Africain, il se sent mal à l'aise. Merci à Hubert et merci à Rukanda. Noéla, vous gardez la ligne. Juste après, nous allons remettre la parole à notre invité pour commenter ses premières interventions.
Radio Capi vous informe 24h/24. En Lingala, Swahili, Kiluba, Kikongo et français, retrouvez la session d'histoire à partir de 16h lors de Kinshasa. Les paroles d'enfants, les chroniques, les informations sur la circulation routière, du sport, de l'économie. Faites le plein de news dans Okapi Soir. De lundi à vendredi, à partir de 16h lors de Kinshasa. Faites le plein d'informations dans Okapi Soir.
Monsieur Arsène Mouaka, vous avez suivi Maurice Kabeya, qui est le président de la société civile à Kamako, Didier de Lubumbashi, tout comme Hubert de Bukavu et Rukanda, qui nous a écrit des Burundi. Quand on écoute les quatre auditeurs, ils se dégagent, comme nous traitons bien sûr aujourd'hui, des pistes de solutions. C'est-à-dire que les pistes de solutions, c'est en deux termes, l'amélioration des conditions de vie des Congolais à l'interne et aussi l'activation de la diplomatie pour s'intéresser à ceux qui se retrouvent ailleurs et surtout en Angola et qu'ils soient expulsés ou bien rapatriés avec dignité. Voilà comment ils ont dégagé. Mais Maurice, lui, il pense qu'il faut d'abord ouvrir officiellement les frontières et faciliter les échanges commerciaux et aussi disponibiliser des espaces pour les créateurs artisanaux et éviter qu'ils puissent se rendre en Angola. On vous écoute.
Le problème du Congo, c'est que tout semble être prioritaire. Et donc, je crois que vous l'avez résumé à deux temps. C'est que la première des choses que la plupart des auditeurs soulignent, je vois Maurice de Kamako, je vois Didier de Katanga principalement, ils disent qu'il faut améliorer les conditions des Congolais à l'intérieur du Congo. À d'autres termes, il faut qu'il y ait une véritable politique de l'emploi, puisque la plupart de ceux qui émigrent vers l'Angola, c'est une main-d'œuvre disponible qui ne trouve pas de l'emploi au Congo, qui ne trouve pas d'occupation. Et la plupart, c'est parfois des diplômés. Et donc, on se retrouve là à face d'un problème qui a quand même été identifié par notre gouvernement, puisque parmi les cinq priorités du gouvernement actuel, on trouve ce qu'on appelle la politique de l'emploi. Mais on ne semble pas voir une véritable activation dans ce sens, puisque je crois que dans un pays où on est conscient que 80% de la population vit de l'agriculture, et peut-être que j'exagère, mais c'est, les proportions sont autour de ça, et que plus de 110% de la population vit dans les milieux ruraux, je crois qu'une attention particulière serait donnée à l'agriculture. Non pas à terme des images télévisées des tracteurs, mais à terme des véritables politiques publiques. En d'autres termes, des actions concrètes, identifiables et vérifiables à des échéances. Parce que pour cultiver, par exemple, le maïs au Congo, si on veut relancer l'agriculture du maïs au Congo, c'est 3 mois. Et donc, après 3 mois, on peut déjà évaluer pour dire nous nous sommes fixés l'objectif d'élever la production du maïs à autant de tonnes, nous en sommes à autant. Et donc, ça sont des politiques stimulantes qui poussent tous ces petits entrepreneurs qui deviennent petits vendeurs d'eau en Angola, petits quadros, petits garagistes et autres, peut-être à se muer en agriculteur, en éleveur, quand il y a une existence d'une véritable politique qui s'accompagne des petits crédits, des politiques de semences, des politiques peut-être d'enrichissement de sol, des politiques de champs, de répartition des terres, des choses concrètes et pas l'agitation à laquelle on assiste, je crois qu'on peut garder un certain nombre de Congolais à l'intérieur. Et je suis tout à fait d'accord avec tous les auditeurs pour dire qu'il est vrai que les conditions d'existence au Congo poussent la plupart des gens à faire des projets de sortie. Les gens vont même dans les églises pour prier pour la sortie. Sortir du pays devient un des objectifs de vie. Je crois que c'est assez pressant et ça c'est bien identifié. Voilà. Le faut. Maintenant la question c'est de savoir entre cette priorité et la priorité du retour de l'État congolais,
le retour de l'État, qui doit faire une véritable préoccupation et qui ne semble pas faire apparemment aussi la préoccupation de nos dirigeants. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la diplomatie, il ne s'agit pas seulement d'aller causer avec l'État frère de l'Angola, mais il est aussi question de donner une véritable existence politique, une véritable vie politique dans les provinces. Parce que contrôler les frontières, on ne le fera pas de Kinshasa, on ne le fera pas du ministère de la Défense ou de l'Intérieur. C'est dans les provinces, dans les territoires, dans toutes les communes qui sont prévues par la Constitution, qui doivent être créées, que doivent se trouver parfois des petites politiques locales pour essayer de contrôler les mouvements à la frontière. Mmh. S'il y a quand même des Angolais qui entrent chez nous et qui viennent recruter, qui sont complices de ces mouvements de population, et qui se retrouve encore être celles qui, c'est cette personne même qui sont chargées de chasser le même Congolais qu'ils ont amené, je crois que là c'est aussi une situation d'insécurité inacceptable qui interpelle notre État, et il est temps que le Congo soit encore le plus grand, celui-là même qui faisait l'orgueil des Congolais qui ne pouvaient pas rapidement envier d'aller à l'extérieur. Il est vrai que les avantages comparatifs au niveau de la frontière, à d'autres termes, le fait que l'Angola soit en train de se réveiller grâce à la manne pétrolière. Aujourd'hui, je crois que l'Angola se dispute la première place avec le Nigeria dans l'exportation du pétrole. Et encore que ce pétrole, une partie de ce pétrole, c'est le pétrole congolais. Et donc, il est quand même inacceptable qu'on puisse dormir. Il est important que nous puissions travailler.
Voilà. Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Aussi des problèmes.
Voilà. Autour même du pétrole, pour peut-être fermer la brèche, on a suivi au niveau du Parlement la défense du gouvernement congolais qui a dit que, en fait, dans la zone d'exploitation commune, l'Angola n'était pas en train d'exploiter le pétrole de la RDC. Peut-être c'est pour fermer la brèche. Mais il y a une préoccupation en fait, qui concerne les trésors. Hein, de diamants, parce que beaucoup aussi vont pour creuser le diamant. Avant de donner la parole à Noëlla et John de Guénéna, la société civile a proposé que l'État puisse disponibiliser les espaces, mais là on se rend compte qu'à Kinshasa, partout comme dans d'autres provinces, beaucoup d'espaces ont été vendus en carré minier, ce qui fait que les propriétaires aujourd'hui cherchent les creuseurs qui s'est débrouillé à gauche à droite pour trouver ou exploiter, avoir un peu d'argent, et quand ils sont chassés et que ces espaces ne sont pas disponibles, disait comme le gouvernement avait promis il y a déjà quelques années, et tout de suite ils seront toujours obligés d'y aller. Et qu'est-ce qu'il faut faire devant les carrés miniers qui sont vendus, et d'un côté c'est besoin de disponibiliser les espaces, et que pourra faire alors le gouvernement congolais, monsieur Arsène Mouattara?
Oui, j'ai un point de vue personnel là, vraiment je crois que j'ai réfléchi comme cela. Les mines n'ont jamais développé ces pays, surtout l'exploitation artisanale depuis 1982. On ne montrera pas l'espace qui s'est développé puisque il y a eu une population qui a exploité de manière artisanale les mines. Un de nos pièges, ce sont ces mines-là, et moi personnellement, je ne suis pas de l'avis qu'il faille refaire la bêtise, puisque s'il faut rentrer même dans ces carrières minières, voir les conditions dans lesquelles les gens vivent, l'esclavage dans lequel les trésors sont soumis, je ne peux pas encourager. Je crois que ça ressemble à la même situation d'expulsion des populations congolaises de l'Angola. Mais il y en a qui pensent qu'il faille libéraliser et donner des espaces, mais je crois que même ces diamants-là, il n'est pas aussi disponible qu'on le pense.
Voilà. Noëlla, on vous donne la parole tout juste après, et John de Guémena, pendant ce temps, nous gardons notre invité en ligne.
Parole aux auditeurs.
Noëlla, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi depuis le début de l'émission comment nous dégageons les pistes des solutions. Je sais qu'il y a beaucoup d'expulsés qui sont sortis de l'Angola et qui sont arrivés aussi au Kasaï oriental. D'ailleurs, dans l'émission de l'année passée, on a eu même un auditeur qui était lui-même deux fois expulsé, qui a même témoigné qu'il y a un bougement. Les gens qui vont même chercher le fétiche pour rentrer en Angola. Et sur place, depuis que les gens reviennent, qu'est-ce que vous voyez dans la société qui est fait pour les aider à se réinsérer socialement et des fois aussi éviter qu'ils puissent se retourner en Angola?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'émission Parole aux auditeurs.
Merci.
Parce que cette émission nous permet de nous exprimer. Au début de votre introduction, vous n'avez pas parlé de refoulés qui viennent de l'Angola. Justement, ces refoulés sont à 8 contre. Et il y en a à peu près 3000 selon la radio Capi qui avait donné l'information. Et je pense que si aujourd'hui il y a des gens, des Congolais qui rentrent en Angola, c'est parce que il y a la mauvaise gouvernance dans notre pays. Je peux vous dire et vous garantir que la RDC a elle-même a 300 millions d'espaces pour cultiver. Et les 300 millions d'espaces, selon les experts de l'ONU, on a exploité que 11 millions d'espaces. Et vous vous rendrez compte que sur 34 ressources naturelles, la RDC a elle-même regorge 32 ressources naturelles. Alors, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les autorités congolaises ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, exploiter les mandats que le peuple congolais leur a donné pour pouvoir investir, améliorer les conditions de vie des populations congolaises. C'est ça la raison pour laquelle nos frères sont en train de fuir le pays pour aller dans les pays étrangers. Donc, nous nous proposons actuellement que les dirigeants congolais puissent ne fût-ce qu'allouer le budget selon le protocole de Maputo, les 10% des budgets qui doivent être alloués à l'agriculture, que cela soit fait. Ça peut aider nos populations rurales à rester au pays, appuyer cette agriculture et ils peuvent vivre sur le territoire congolais au lieu d'aller en Angola. Nous ne voyons pas ce que nous pouvons envier de l'Angola parce que, avec tout ce que je vous ai dit, je crois que le Congo est suffisamment riche pour pouvoir s'occuper de ses populations. Voilà un peu, à mon humble avis, ce que je pense.
Merci beaucoup, madame. Nous sommes très heureux de vous avoir dans cette émission. Nous encourageons aussi les dames qui vous souhaitent bien intervenir de nous appeler au 081-890-69-69. Nous avons compris, vous avez dit, que nous avons à peu près 300 millions d'espaces et 32 ressources naturelles sur les 34 ressources qui existent. Et si la RDC pouvait d'abord améliorer la gouvernance et allouer les budgets conséquents, comme les protocoles de Maputo prévoient à 10%, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, on a entre 1 et 2% pour l'agriculture. Et si jamais on allouait ces budgets, on pouvait bien occuper tous ces gens qui fuient vers l'Angola, en améliorant bien sûr les conditions de leur vie et en revenant à l'agriculture, comme ça a été dit d'ailleurs par notre invité. Merci beaucoup, madame. Vous êtes en bout du mail au Kasaï oriental, à Guémena, dans la province de l'Équateur. C'est John qui est en ligne. John, bonjour.
Bonjour, Théo.
Vous avez suivi madame Noëlla de Mbujimaï, qui pense que le problème c'est celui d'abord au niveau de la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance, qui va permettre de bien utiliser les ressources et allouer un budget conséquent à l'agriculture. Cela va freiner le flux migratoire vers l'Angola, que ce soit aussi vers d'autres pays limitrophes de la RDC. Quel est votre point de vue, John?
Bon, en fait, avant que je puisse quand même proposer quelques pistes de solutions, j'ai déjà le problème, montrer les démonstrations que j'ai en ai à moi. Quoi. Parce que c'est un peu déplorable. Bon, j'ai cette chance-là de parcourir la RDC. En fait, je rencontre par-ci par-là des étrangers qui vivent chez nous ici dans une situation irrégulière. Bon, je me demande souvent est-ce que vraiment, les autorités congolaises, est-ce qu'ils prennent tant de rigueur par rapport aux Africains qui vivent chez nous ici avec dans des situations irrégulières.
Voilà, John, avant
il a raison d'une autre côté, quelque part aussi je vois que c'est là qui est nécessaire.
Voilà, John, excusez-moi avant d'avancer, en fait, le problème de l'expulsion de personnes qui vivent sur un autre sol, c'est un problème de souveraineté, je crois bien. Si peut-être vous êtes rendu compte qu'il y a des Africains qui vivent d'une manière irrégulière en RDC qui n'a pas autant de rigueur, cela dépend de la politique de la RDC en matière d'accueil des étrangers. Mais bon, chaque pays définit la manière dont il voudrait voir les étrangers vivre sur son terrain. Voilà, c'est un peu ça la brèche. Maintenant, vous pouvez continuer pour vos propositions.
C'est le problème en question. C'est le problème de la souveraineté en soi. Bon, il y a aussi un problème de la diplomatie. La diplomatie au niveau international doit être quand même d'une façon d'égalité. Bon, si on n'arrive pas à nous respecter les autres, comment est-ce qu'on peut aussi respecter les autres? En tout cas, moi, je n'ai pas pour faire comme ça. J'aimerais néanmoins vous dire, il y a un problème. Avant, il y a un problème de l'emploi. Avant qu'on puisse néanmoins proposer à un Congolais l'emploi, il faut que ces Congolais puissent être bien formés. Il y a un problème de formation. Parce que quand vous allez voir les gens qui traitent ces gens de régal, parmi ces gens-là, ce sont des gens vraiment qui n'ont pas une bonne éducation. Donc, il n'y a pas une formation en soi. On doit essayer de former les gens, néanmoins savoir comment se débrouiller chez soi. On vit mieux chez soi. Donc, je ne vois même pas ce qu'ils viennent aller chercher ailleurs, là, parce qu'ici, chez nous, en soi, on a tout. Avec ce peu qu'on a, les questions, là, le gouvernement, au moins, prenait le temps de former la population. Et donc, de ne pas chercher à compliquer la situation. Et donc, tellement qu'on a aussi un gouvernement,
Voilà, on vous a suivi, John, vous êtes très inquiet. Bon, mais cela permet aussi à ce que les uns et les autres puissent s'interpeller. Merci beaucoup. Vous êtes à Guéména, dans la province de l'Équateur. Avant de remettre la parole à notre invité, mais il y a aussi Prudence qui est en ligne à Bukavu. C'est une dame aussi qui nous a appelé. Mais nous lisons les mails de Roger Maciala qui nous écrit depuis le Caire en Égypte. Il dit ceci, qu'il faudrait résoudre cette situation en attaquant les causes. Les Congolais partent en Angola, pourquoi ? Ils fuient la misère, la pauvreté au Congo pour une vie meilleure. Le gouvernement congolais est responsable de cette situation, de cette humiliation. Je ne pense pas qu'une personne qui gagne correctement sa vie au Congo va tenter cette aventure. Et lui estimerait peut-être qu'il serait aussi mieux pour le gouvernement congolais d'expulser aussi les sans-papiers qui vivent sur son territoire. Mais bref, Roger Maciala a dit ceci, il revient au gouvernement de mettre les Congolais à l'aise, créer des emplois, créer des bonnes conditions de vie. C'est la clé pour mettre un terme à cela. Prudence, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bukavu, c'est dans la province du Sud Kivu. Vous avez suivi dans cette émission Parole aux auditeurs qui se penchent sur la poursuite des expulsions des Congolais qui vivent en Angola, mais nous dégageons les pistes et des solutions pour parvenir à mettre fin à cela. Vous avez suivi beaucoup d'auditeurs qui ont déjà proposé autant de pistes. Et vous, quel est votre point de vue pour mettre fin à cette situation ou sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à cela?
Oui, ce qu'il faut faire par rapport à mon avis, j'adhère à ce que les autres ont dit. Vraiment, dans notre pays, il y a un problème d'encadrement chez les journalistes. C'est pas seulement qu'il n'y a pas des emplois, mais on ne sait pas aussi encadrer les gens qui travaillent. Vous voyez, les gens qui ont terminé dans les filières enseignantes, comme moi, je suis enseignante de formation. Vous voulez enseigner quelque part, le corps vous envoie 50 000 francs. Avec ça, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé d'aller à l'étranger, chercher quelque part où vous pouvez gagner plus. Ça, c'est vrai. Il faut créer de l'emploi, mais aussi encadrer, payer les salaires. Parce que l'État n'arrive pas à prendre en charge la population. De deux, je pense que notre pays doit voir comment aussi supporter, comment aussi venir en aide secourir le Congolais de l'étranger. Chaque fois, vous voyez, quand vous êtes à l'étranger, vous Congolais, vous êtes méprisé. On vous prend comme si vous êtes de, je sais pas, de Al-Qaïda. On vous contrôle beaucoup, même si vous êtes en ordre avec les papiers. On a tendance à vous surveiller beaucoup. Et notre gouvernement ne fait rien. Parce que si notre gouvernement allait en aide aux Congolais qui vivaient à l'étranger, je pense que la situation pourrait changer. Vous pouvez être arrêté ici à côté, par exemple, au Rwanda, si je prends l'exemple de notre pays, selon nos voisins ici proches de nous. Vous serez arrêté au Rwanda, vous ne serez même pas une autorité de vous qui prenez l'année là pour justifier que c'est votre état. Par contre, quand vous regardez d'autres pays comme la France, le but principal qui a été, par exemple, enlevé à Niamey, mais avant qu'il soit tué, on a déjà pris contact avec leur pays, et leur pays a déjà commencé à prendre des dispositions. Mais ce n'est pas le cas avec notre pays. Ce que je demande à notre pays, c'est de créer de l'emploi comme les autres ministères, encadrer, payer les salaires, mais aussi, il doit commencer à se déplacer de manière sociale, pas toujours l'économie, parce que quand il y a des accords entre deux pays, c'est toujours un rapport avec l'économie, mais pas le bien-être social. Pourquoi ça? C'est ça que nous déplorons. Je pense que c'est un problème formel qu'il faut revoir. au niveau de notre gouvernement.
Merci beaucoup, Prudence des Bukavu. Il faut créer de l'emploi et aussi encadrer les employés quand ils ont déjà cet emploi. Mais vous avez aussi sollicité que le gouvernement congolais dans la diplomatie puisse encadrer les Congolais qui vivent à l'étranger. On en avait parlé d'ailleurs dans une émission l'année passée sur l'état des lieux des ambassades à travers le pays. Henri, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez suivi les uns, les autres. Aujourd'hui, la situation continue. Les gens se sentent un peu abandonnés. Ils disent que le gouvernement ne s'intéresse pas à nous, soit pour encadrer ce qui retourne, soit pour mettre des mesures en place, les mesures d'encadrement global et éviter que les gens puissent aller, que ce soit en Angola ou dans d'autres pays. Vous avez été, je crois bien, député de la transition et ce problème n'a pas existé aujourd'hui. Quelles ont été les pistes de solutions que vous aviez dégagées pendant cette période-là pour permettre au Congo et aux Congolais à faire face à cette situation de mouvement des populations et d'expulsion?
Merci, mon frère. J'ai été député, comme vous venez de le dire, et j'ai vécu pendant plus de 20 années en Angola comme professeur.
Mmh.
C'est pour vous dire que cette situation, elle est déplorable. Elle est déplorable du fait qu'elle est récurrente et que de notre côté, on n'arrive jamais à trouver une solution. Nous avons des représentants diplomatiques en Angola, à Luanda. Ces diplomates savent ce qui se passe. Le gouvernement, du temps où moi j'étais député, le gouvernement angolais a dépêché de venir faire ici. Ils ont posé ce problème concrètement. Toutes les autorités nationales savent ce problème. Et pour cela, ils se trouvent devant un état accompli, ils ne peuvent pas réagir. Je vous ai suivi sur le Kati la fois passée, le gouverneur du Kasaï occidental, qui parlait de ce problème et qui disait que le Congolais, quand on le reprend ici, on cherche à trouver des solutions, on se rend compte qu'il convient à rentrer. Eh bien, mon frère, on ne gouverne pas avec le cœur, on gouverne avec les lois. Si vous voyez les Roms en France, on les cherche, c'est la loi. Quand on ne se conforme pas à la loi du pays, on vous cherchera. Nos frères vont chercher, bien sûr, la vie. Ils vont chercher la facilité. Parce qu'ils ne la trouvent pas ici. Parce qu'ici, il n'y a pas d'autorité qui prenne conscience de leurs responsabilités pour résoudre les problèmes fondamentaux de leur peuple. Le peuple cherche à manger, il cherche comment il peut améliorer son niveau de vie. C'est ça l'essentiel. D'abord, c'est ça. Et le peuple ici ne trouve pas ça. C'est pourquoi ils vont en Angola, parce que toutes les richesses que nous avons, ce sont les mêmes que l'Angola a. Mais l'Angola, on peut gérer d'une autre façon. Ici, on peut gérer de la façon qu'on le voit tous les jours avec des pas de porte. Moi, je suis géologue de formation, donc ces affaires des pas de porte de ce type-là, ce sont des manières pour essayer de sortir de la légalité pour aller dans l'illégalité. La solution, c'est justement que nos autorités prennent conscience de la responsabilité de la vie des autres et qu'ils planifient le développement de ce pays.
Mm-hmm.
Qu'on puisse proclamer des actions dans divers secteurs. On ne peut pas faire de la politique le seul secteur productif du pays. Là où tout le monde doit aller pour pouvoir gagner quelque chose. Non. Chacun doit aller dans son secteur de formation. Mais il faut, même s'il y a une économie soi-disant libérale ou quoi. Mais est-ce que cela veut dire que le gouvernement ne peut rien programmer pour pouvoir encadrer sa jeunesse pour sa population? Moi, je pense que non.
Voilà.
Mmh. Alors, ici, il y a un abandon total. On dit non, nous sommes dans le libéralisme. Chacun fait. Mais oui, mais votre peuple, vous êtes un pays pauvre et très endetté. Vous n'avez même pas vous-même le temps, l'argent pour investir. Comment pensez-vous que vos populations peuvent en avoir et pour développer une activité?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Henri. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été député national de la transition et d'ailleurs vous avez vécu 20 ans en Angola comme professeur. Le problème, c'est la conscience des autorités congolaises, la responsabilité et la planification du développement pour encadrer les uns et les autres. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons en ligne notre invité, monsieur Arsène Mouaka, coordinateur du Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa, à qui nous allons remettre la parole tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Voilà, monsieur Arsène Moitia, nous vous remettons la parole. Karine nous appelle de Bounia et nous la gardons aussi en ligne. Elle va avoir la parole tout de suite. Vous avez suivi les auditeurs. En fait, tout s'est résumé en un seul mot, l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais quand vous regardez la manière dont cela se déroule et se fait actuellement, est-ce qu'on peut parvenir dans un proche avenir et espérer mettre fin à ce mouvement de population? Parce que les auditeurs se plaignent, mais c'est une situation qui ne va pas peut-être s'améliorer aujourd'hui ou demain, l'emploi, les conditions de vie. Mais est-ce que dans un proche avenir, cette situation pourra-t-elle s'améliorer, ou bien on risque d'y aller comme ça jusqu'à avoir même des hostilités où les uns commencent à se regarder face à face pour voir que les Angolais ils ne nous aiment pas, ils nous expliquent ce sujet, les Angolais disent mais ils ne font rien pour encadrer, les personnes ils reviennent, et dans ces conditions ça risque de s'enliser.
Oui, je crois que vous l'avez dit, on ne laissera pas la population gérer cette situation. Et je crois que Noëlla Dembouzima, il a mieux dit, il faut qu'il y ait une gouvernance réfléchie qui permet à ce que l'on puisse budgétiser un certain nombre de secteurs susceptibles d'emmagasiner une grande main-d'œuvre et d'occuper comme ça des citoyens congolais sur son territoire. Mmh. Il y aura toujours des mouvements de population entre les deux pays. Il y aura aussi toujours des mouvements de population clandestins, étant donné la situation géographique de nos deux États, qui permet à ce que les populations puissent se mouvoir, même quand on amènera, je crois, des ordinateurs pour surveiller le mouvement de population. Il y en aura toujours entre les deux, et il y aura aussi des mouvements réguliers, puisque la curiosité pourra toujours pousser certains à voir au-delà des frontières. Mmh. Et donc, nous devons gérer nos deux États dans ces conditions-là et faire à ce que nous puissions avoir un développement proportionné, c'est-à-dire il ne faudrait pas que l'Angola fasse un très grand pas de sortie d'une crise de violence terrible et que nous puissions attiser un grand retard. Et donc il est temps que nos dirigeants, vous l'avez dit, puissent s'apesantir sur les conditions de vie. Et je crois que Noëlla l'a mieux dit. Il faut que ça se passe à terme de budget, dans l'exemple qu'elle a donné, où l'agriculture peut rapidement occuper une grande partie des populations. Mais je voulais quand même placer un mot avant peut-être de laisser la parole aux autres auditeurs pour dire qu'il convient quand même aussi d'interpeller les Congolais, les citoyens congolais. Nous devons croire en l'avenir de notre pays. Davantage, et chaque jour, nous faisons une autoflagellation qui fait croire que rien ne se passe dans notre pays et qu'il n'y a aucun avenir dans notre pays. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de débouchés. Il nous faut quand même essayer de prendre courage et de ne pas accepter comme telle la situation qui se présente devant nous et nous débrouiller. Nous devons nous débrouiller face à cette situation difficile et surtout à une hostilité qui se présente près d'endroits où nous pensons que nous pouvons aller nous débrouiller au-delà des frontières.
Voilà,
terre riche qu'ils vivent là, élevons et occupons-nous de ce qui peut être fait en attendant que le gouvernement s'organise.
Voilà, on vous garde en ligne. Nous avons Karine Debounia, Donna Mazimba, bien sûr, notre reporter Radio Capi, qui s'est rendu dernièrement à Kamako, où se trouve, où il a rencontré les expulsions. On va leur donner la parole. Karine, vous êtes en ligne, Debounia, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Oh, vous avez suivi tout à l'heure notre invité qui vient aussi d'interpeller les Congolais pour dire qu'ils peuvent aussi rester dans leur pays et faire avec, en attendant, bien sûr, que le gouvernement améliore les conditions, comme la situation peut s'améliorer petit à petit. On vous écoute, Karine.
Moi, j'interviens pour les Congolais qui sont là, en Angola. Mm-hmm. Alors, moi, je ne sais pas si notre gouvernement, veut quoi. Et je vois comme si eux aussi sont complices de ce qui se passe là-bas.
Comment ils sont
pas
complices?
Alors, il allait intervenir si vite. Chez nous, au Congo, il y a déjà qui entre, il sort quand il veut, il entre comme il veut. Alors, pourquoi ils ne veulent pas faire ce que les Congolais vont, ce que les Congolais aiment? Ils laissent les femmes violées, les hommes tués. Pourquoi le gouvernement n'intervient pas? Si moi j'étais le gouvernement, j'allais faire ce qu'ils sont en train de nous faire là. Parce que le Congo, c'est pas aussi, c'est une poubelle. Tout le monde vient jeter la saleté. Et pourquoi c'est pas ça? On a droit quand même à vivre là où on peut vivre. Les Ougandais, les Rwandais, je ne sais pas quoi là. Tout qui vient au Congo, est-ce qu'on les traite comme ça? On ne les traite pas comme ça.
Et Karim, pour vous aider d'ailleurs, hein, le porte-parole du gouvernement avait bien précisé dans une interview à l'agence France-Presse pour dire qu'ils sont informés chaque fois quand il y a expulsion de Congolais de l'Angola, mais il avait bien sûr insisté que la plupart des gens qui sont expulsés, ce sont ceux qui vivent à l'Angola d'une manière irrégulière. Merci Karim de nous avoir appelé de Bounia. De Mamadimba, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Piro.
Vous avez séjourné dans un passé récent à Kamako, c'est une des localités par où les Congolais qui sont expulsés de l'Angola vivent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser ces expulsés de Mamadimba?
Non seulement je les ai croisés, hein, ils étaient quelques dizaines pour être plus précisément ceux que j'ai rencontrés, mais j'ai aussi parlé avec eux. C'était des jeunes, des adultes, des femmes, mais aussi des hommes. Toutefois, comme je l'ai dit dans le reportage que les auditeurs ont certainement écouté hier, le comité d'accueil des expulsés d'Angola au Cathay occidental nous a donné un bilan d'au moins 25 000 Congolais expulsés d'Angola pour l'année 2010.
Mmh. Et ces expulsés que vous avez croisés, ils vous disent quels sont les motifs pour lesquels ils sont expulsés de l'Angola, Don Mamadimba?
Ces expulsés sont dans des conditions précaires, hein, de manière générale. C'est vrai que personne, de manière générale aussi, ne passe la nuit à la belle étoile, car selon nos investigations, la plupart de ces expulsés semblent avoir de la famille ou des connaissances à Kamako ou dans les environs. Ceux qui n'ont vraiment personne sont accueillis par des églises locales, mais pour se nourrir, c'est chacun pour soi. Dans quelques rares cas, c'est le comité d'accueil des expulsés qui leur donne quelques rations filiales.
Et comme c'est pour revenir à la question, quelles sont les raisons, selon ce qui a été avancé par ceux-là que vous avez croisés, pourquoi les autorités angolaises ou les services de sécurité les expulsent?
Les raisons sont nombreuses, hein, mais elles se résument en une seule assertion: chercher de meilleures conditions de vie. C'est vrai que certaines femmes rencontrées parmi les expulsés disaient qu'elles étaient allées en Angola pour rejoindre leur mari. Mais pour la plupart de ceux qui ont pu témoigner, il est surtout question d'aller travailler dans les mines et espérer trouver le diamant qui peut améliorer la situation de la famille.
Et enfin, pour vous libérer de nom, quand vous avez contacté les autorités locales, le comité d'accueil et aussi les expulsés, est-ce qu'il y a des efforts quand même d'encadrement pour ceux-là qui reviennent au pays, par exemple à Kamako, ou bien ils sont abandonnés à leur triste sort et après, demain, ils vont revenir encore retourner en Angola?
Bon, je préfère rendre compte de ce que j'ai vu. Sur le terrain, j'ai vu aucune structure organisée de l'État. C'est vrai que on peut pas dire que l'État n'était pas là, puisque moi, quand j'étais là, j'ai pris part à une mission conjointe dans laquelle prenait aussi part un ministre du gouvernement provincial du Cathay occidental, mais je parle par rapport à l'habitude, hein. Je n'ai vu aucune structure organisée de l'État. Soit les ONG agissent, mais là aussi de façon très limitée, faute de moyens. Les églises et quelques hommes de bonne volonté, mais aussi les hôpitaux interviennent de temps en temps, mais très souvent, c'est Kara, cette structure que j'ai nommée tout à l'heure, hein, le comité d'accueil des expulsés au Cathay occidental, une structure citoyenne et non étatique, qui s'est donné la tâche de pouvoir accueillir, mais aussi identifier les personnes, les Congolais expulsés d'Angola.
Voilà, merci beaucoup, Don Mamadimba. D'ailleurs, là, ce sont des actions ponctuelles, hein, qui ne sont pas dans le temps pour un encadrement efficace. Merci beaucoup, Donan. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez séjourné dernièrement à Kamako, dans la province du Cap occidental, où vous avez bien sûr réalisé un reportage sur les expulsés de l'Angola pour les comptes de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Et Monsieur Arsène Moitia, on termine déjà cette émission. On a suivi la plupart des cas quand les gens sont expulsés comme ça. C'est les ONG, ils vont le voir. Des fois, c'est le ministère des Affaires sociales. Souvent, ce sont des actions, comme je venais de le dire, ponctuelles, qui ne sont pas, bien sûr, étalées sur le temps, ou bien d'un encadrement efficace, mais ma foi, on pourra toujours revenir là-dessus, mais on a écouté les uns et les autres. Mais le souci dans tout ça, c'est qu'il faut que la situation puisse changer dans le sens de l'encadrement de ceux qui sortent, de l'encadrement de ceux qui vivent en Angola, et même dans un encadrement global pour éviter ces mouvements. Le dernier reportage, vous l'avez suivi, c'est notre les témoignages de notre confrère qui a vécu, qui a été à Kamako, et aussi les autres solitaires. Et là, on vous écoute, M. Arsène Mouaka, sur toutes ces pistes et des solutions qu'il faudrait conclure. Et c'est aussi pour vous de conclure cette émission après les avis des uns et des autres.
Oui, ça veut dire, c'est-à-dire, il faut que l'État puisse exister, puisque l'État est absent à l'extérieur du pays pour les citoyens congolais qui sont expulsés d'Angola. Ils reviennent à l'intérieur du Congo, ils retrouvent le même État absent dans le camp où ils vivent dans des conditions inacceptables. Et donc, la désocialisation de la politique n'est pas un phénomène nouveau au Congo. Apparemment, l'État continue à s'enfoncer et laisser la vie publique aux ONG, aux hommes de bonne volonté, aux églises, tout en réaffirmant sa souveraineté. C'est cela le paradoxe, malheureusement. Mais, pour conclure, disons qu'il y a deux choses que nous pouvons retenir dans cette émission, c'est qu'il faut de un, que l'État puisse réexister dans ses structures et à travers principalement la décentralisation. De deux, il faut qu'il y ait une véritable politique publique de l'emploi et non des slogans pour permettre à ce qu'une grande masse de la population soit occupée. Et nous pensons que l'agriculture et l'élevage constituent le premier secteur qu'on peut budgétiser et permettre à ce que la majorité des Congolais se retrouvent.
Merci beaucoup, M. Arsène Mouaka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le coordonnateur du Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir accepté de commenter ce sujet avec les auditeurs des Radio Kapi, à qui nous disons tous merci d'avoir participé à l'émission de ce jour.
Allô? 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 Il ne répond pas?
C'est par là que nous mettons un point final à cette émission. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine et nous allons parler de la jeunesse et l'Internet. L'Internet, c'est un moyen de communication qui facilite bien sûr les échanges entre plusieurs personnes et aussi l'Internet qui facilite les recherches. On a noté que beaucoup de jeunes utilisent aussi l'Internet à travers la République démocratique du Congo, mais on note qu'il y a beaucoup d'abus sur Internet, comme la criminalité, l'escroquerie et aussi la pornographie. Alors, auditeurs des Radio Kapi et surtout les jeunes, demain vendredi, vous avez la parole pour nous dire quel usage les jeunes font-ils de l'Internet dans votre milieu. Nous allons nous retrouver avec vous demain. N'oubliez pas de vous inscrire déjà à l'adresse pa@radiokapi.net. Merci à toute l'équipe pour la production de cette émission. Marie-Chantal Lumba, Kikim Poutou, Willem Lungamba pour la réalisation et Ben Kabamba pour la coordination de cette émission et sur www.radiokapi.net. Merci. Au revoir à tous.